trouvera peut-être pas le moniteur, mais enfin, on trouvera un prédicateur pour ce matin. Ce matin, je suis descendu de chez moi à pied, dans la neige. Quoi ? Un peu de neige. Alors, je pense que tous ceux qui sont là ce matin sont ceux qui ont fait un petit peu l'effort de se dire « la neige ne va pas m'arrêter ». Je vais quand même y aller, mais quand on y va, on part un tout petit peu à l'avance et puis on prend un peu son temps. Et on fait gaffe à chaque pas que l'on prend parce que si on avance un peu trop vite, il risque d'y avoir des accidents et c'est pas terrible ce qui peut éventuellement arriver. Mais ce que j'aimerais ce matin aussi, c'est qu'on prenne un tout petit peu le temps de ralentir un tout petit peu sur Noël. Moi, j'ai l'impression que Noël est déjà passé. Ça y est, c'est derrière nous. Dans deux jours, on va commencer, ou un jour, on va commencer à préparer le nouvel an. Et puis après, ça sera terminé. Puis après, bon, ça sera de nouveau l'année prochaine. Mais j'ai l'impression que les Noëls, ils viennent les uns après les autres. Ils se bousculent. Et ils viennent et ils repassent. Et puis, ça va extrêmement vite. Ça va extrêmement vite. Et puis, en même temps, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le temps de faire à Noël. Alors, je ne sais pas si vous êtes un petit peu comme nous, mais nous, on a quelquefois tellement d'idées de plats différents, de gâteaux différents, de trucs comme ça, qu'on n'arrive même pas à avoir assez de repas pour tout manger. Donc après, il faut faire des choix, il faut ralentir un petit peu et tout ça. Et c'est là où, dans un sens, on vit une période qui de plus en plus n'est pas très favorable à réfléchir à ce que signifie Noël. Alors, ce n'est pas tellement que la doctrine de Noël est un problème pour nous, parce que l'incarnation de Jésus-Christ est quelque chose que nous connaissons bien et qui est tellement pivot à notre foi qu'il ne faut pas nécessairement attendre Noël pour comprendre ce que ça signifie. Ce n'est pas comme l'Ascension ou comme d'autres fêtes qui sont un petit peu plus subtiles dans notre théologie, et c'est bien qu'on puisse s'arrêter dessus. Mais quand même, parce que Noël, c'est quand même certainement l'un des événements les plus majeurs dans l'histoire du salut de Jésus-Christ, bien sûr, du salut que Dieu a voulu donner aux hommes, bien sûr, avec la croix et la résurrection. Mais le jour où Jésus est devenu homme, waouh ! Parce qu'il y a eu une préparation, nous dit la Bible, de toute éternité, il y a eu une préparation pour cette venue. Alors nous, on n'arrive pas à comprendre un petit peu ce qu'est l'éternité, on n'arrive pas très bien à comprendre pourquoi Dieu il a dû penser de toute éternité au salut des hommes. Ça ne fait rien. Mais si on regarde d'un peu plus près, et qu'on regarde et qu'on descend un petit peu dans l'histoire des hommes, on se dit, le jour où Adam et Ève ont péché contre Jésus-Christ, là, Dieu, il annonce. Il annonce le salut. Et il va se passer des siècles, si pas des millénaires, avant que ce salut arrive. Et tous les hommes, beaucoup d'hommes pendant cette période-là vont avoir les yeux portés sur cette date, sur ce jour où ça va arriver, et ils vont se dire, mais quand est-ce que ça va arriver? Et plus le temps va passer, plus cette aspiration à voir le salut de Jésus-Christ va devenir de plus en plus forte. Et lorsque c'est arrivé, là, tout d'un coup, les hommes, ils se disent, ça y est, ce que nous avons attendu depuis si longtemps est arrivé. Et c'est pour ça, ce matin, que j'aimerais, même si Noël est derrière nous depuis quelques jours, c'est prendre encore un peu de temps pour méditer un tout petit peu à ce que c'est cet événement. Et je vous invite à lire un texte que vous connaissez certainement très bien, et qui est tiré de l'évangile de Luc, et j'ai fait exprès de le prendre dans une version que vous ne connaissez certainement pas bien. Mais je l'ai fait exprès. Dans la même région, il y a des bergers. Ils vivent dans les champs et pendant la nuit, ils gardent leurs troupeaux. Un ange du Seigneur se présente devant eux et la gloire du Seigneur les enveloppe de lumière. Alors, ils ont très peur. L'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Oui, je viens vous annoncer une bonne nouvelle qui sera une grande joie pour tout votre peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous. C'est le Christ. » Le Seigneur. Voici comment vous allez le reconnaître. Vous trouverez un petit enfant enveloppé dans une couverture et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y a avec l'ange une troupe nombreuse qui vient du ciel. Ils chantent la louange de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et sur la terre paix à ceux que Dieu aime. Ensuite, les anges quittent les bergers et retournent au ciel. Alors les bergers se disent entre eux, Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur Dieu nous a fait connaître. » Ils partent vite et ils trouvent Marie, Joseph et le petit enfant couché dans la mangeoire. Quand ils le voient, ils racontent ce que l'ange leur a dit sur cet enfant. Tous ceux qui entendent les bergers sont étonnés de leurs paroles. Marie retient tout ce qui s'est passé. Elle réfléchit à cela dans son cœur. Ensuite, les bergers repartent. Ils rendent gloire à Dieu et chantent sa louange pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. En effet, tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé. Vous connaissez ce texte, et beaucoup d'entre vous qui avez été dans les écoles du dimanche, vous l'avez joué une fois, deux fois, trois fois, et vous le connaissez par cœur. Ce n'est pas toujours un texte facile alors à reprendre pour un prédicateur, parce que ce que je peux imaginer dans votre petite tête, c'est de dire, ça y est, encore nous faire une prédication de Noël, Luc 2, on connaît, on l'a joué, j'ai joué Marie, j'ai joué l'enfant, j'ai joué la mangeoire. J'ai tout vu. Mais il y a le même risque aujourd'hui avec cette habitude que nous avons que le risque du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, où Noël prend tellement de sens différents et tellement de connotations différentes que le message de Noël n'arrive plus à avoir un impact sur nous. On le connaît par cœur, vous pourriez le réciter, vous connaissez tous les détails, même la couleur de la mangeoire. Vous savez combien de bœufs il y avait, même si le texte ne le disait pas. Et nos cœurs sont peut-être devenus un tout petit peu imperméables à ces textes et un tout petit peu imperméables à ce que signifie l'incarnation de Jésus-Christ. Et pourtant, dans l'Écriture, il y a un certain nombre de mises en garde qui nous sont données par rapport à les choses que l'on voit mais qu'on ne comprend pas. Le prophète Jérémie, il dit « Le peuple a des yeux, mais il ne voit pas. Il a des oreilles, mais il n'entend pas. » Et là, c'est un petit peu sous la forme de l'accusation et du jugement que c'est prononcé. Mais l'apôtre Paul, lui, dans l'épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, il dit, nous, en tant que chrétiens, nous ne cherchons pas ce qu'on peut voir. Nous cherchons les choses qu'on ne voit pas. En effet, ce qu'on peut voir ne dure pas longtemps, mais les choses qu'on ne voit pas durent toujours. Et deux versets plus haut, il dit, c'est ainsi que notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Chers amis, le défi que nous avons lorsque nous lisons l'Écriture et lorsque nous lisons l'Écriture que nous connaissons très bien, c'est de trouver les choses que l'œil ne voit pas. Parce que c'est comme ça que notre être intérieur se renouvelle. Alors, ce n'est pas un jeu de piste que le Seigneur fait, hein, en disant « j'ai caché des choses par-ci, par-là, il faut les trouver ». Ni même est-ce qu'il faut être très imaginatif pour aller inventer toutes sortes de choses que le texte ne contiendrait pas. Mais c'est plutôt de se dire que le texte biblique tel que le Seigneur l'a inspiré à ses auteurs pour rendre compte d'un événement qui est absolument extraordinaire, au-delà de ce qu'on peut imaginer, ce texte contient certainement des indices ou des choses que nous passons sous silence ou que nous n'avons pas relevées ou qui pâlissent un tout petit peu au vu d'autres choses. Alors les anges, évidemment, ça prend toute la place, parce que, je veux dire, on ne voit pas beaucoup d'anges, et puis là, tout d'un coup, il y a une chorale d'anges, alors on ne voit que les anges. Et on ne voit pas toujours les autres choses. Et ce qui était étonnant, lorsque je préparais ce message, c'est que je suis tombé sur une prédication de quelqu'un qui mettait en évidence toutes les choses qu'on pense par rapport au message de Noël, mais qui, en fait, ne sont pas dans la Bible. On est arrivé au point où on connaît ces choses tellement bien qu'on a même rempli les vides. Et on a imaginé un certain nombre de choses, comme je disais tout à l'heure, vous savez combien de bœufs il y avait dans les tables, mais qui ne sont pas dans le texte. Et pourtant, ici, il y a certainement à l'intérieur de ce texte un certain nombre de choses qui, j'espère, pourront être pour nous une façon de percevoir encore la profondeur et la richesse de ce qui s'est passé à Noël. Parce que moi, de façon résumée, Noël, c'est Jésus devient un homme. Point barre. Il est devenu un homme, comme moi, point barre. Et pourtant, ces textes ici sont beaucoup plus riches que ça. Et Dieu nous aide à voir toutes ces subtilités. Et Dieu, à un certain moment, nous arrête pour, en fait, se mettre en plein milieu de notre chemin pour dire « Regarde, il y a quelque chose qui est en train de se passer. » Et comme il l'a fait pour les bergers là, en faisant apparaître un ange, pour nous c'est devenu du folklore, nous ça... Un ange, bon, très bien. On l'a tellement lu. Mais pour les bergers à l'époque, un ange, il les a arrêtés dans leurs traces, leur a annoncé une parole, et puis il en a remis une couche en faisant apparaître d'autres anges qui chantaient, et c'était un truc absolument extraordinaire. Et Dieu les a arrêtés dans leurs traces. Et la question pour nous est de savoir comment est-ce que Dieu nous arrête dans nos traces lorsque nous lisons un texte comme ça. Alors moi j'ai fait exprès de vous prendre une autre version, parce que je suis sûr que ça vous trouble. Moi le simple fait que tous les verbes soient au présent, c'est pas comme ça que je l'ai appris dans la Louis II 1910. C'était du passé simple. Alors, la première fois que je l'ai lu, tous les verbes étaient au présent. Je me suis dit, tiens, pourquoi c'est au présent? Ils l'ont fait exprès à la société biblique. Tout ça pour m'embêter. Mais le Seigneur nous arrête. Et une des façons dont le Seigneur nous arrête, et je vous encourage à penser à cela, c'est que dans les quatre évangiles, on n'a même pas la même façon de raconter la naissance de Jésus-Christ. Alors nous, en tant que bons évangéliques qui croyons que la Bible est inspirée, qu'elle est une, qu'elle est parfaite, qu'il n'y a pas de contradiction, pas d'erreur, tout ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de tout rassembler pour en faire un discours parfait, avec aucune contradiction, et on se dit, bah, tout ça, bah, oui, bah, ça fait un message de l'incarnation, un message de Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce que Dieu il a voulu qu'il y ait quatre messages différents à propos de sa naissance? Je veux dire, ils étaient quand même quatre apôtres qui auraient pu se causer les uns aux autres et puis dire, on fait un seul et même récit. Ça sera beaucoup plus simple. Alors Marc, le premier qui a écrit l'évangile, il dit, moi c'est pas tellement ça qui m'intéresse, alors lui il n'en parle pas. Marc ne parle pas de la naissance de Jésus-Christ. Pourquoi? Alors je ne vais pas spéculer là-dessus. Mais pourquoi est-ce que d'un côté on a Luc qui nous raconte avec moult détails la naissance de Jésus-Christ, et un autre, Marc, qui lui dit, moi j'ai des choses plus importantes à raconter qui commencent plus tard, au moment où Jésus démarre son ministère. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu qu'un des évangiles soit silencieux? Matthieu, lui, il commence avec une longue généalogie. Et tout ça... Les commentateurs sont à peu près d'accord, c'est pour montrer à quel point Jésus, en fait, est l'héritier de David, et puis on remonte encore plus haut jusqu'à Adam, etc. Mais pour montrer qu'en fait, il est l'aboutissement de toutes ces promesses qui ont été faites depuis tellement longtemps. Et Matthieu, lui, qui écrit pour des Juifs, il leur dit, ben, vous voyez, déjà dans sa généalogie, Jésus est le fils de David qui était attendu. Donc lui, il a un autre objectif, c'est de montrer que Jésus est l'accomplissement des promesses. Alors encore, il est plus subtil, parce que dans les généalogies, il s'amuse à parler de femmes. Alors ça, encore, ça troublait un petit peu les gens à l'époque, et ça nous trouble parfois aussi. Mais il y a des petites choses dedans qui sont là pour donner des indications sur qui est ce Jésus qui est en train de naître. Luc, lui, comme nous l'avons lu ici, est davantage quelqu'un qui cherche à être un petit peu un historien et beaucoup plus factuel. Et donc, il n'écrit pas nécessairement pour un public en particulier, mais il va essayer de rassembler le plus de détails qu'il a pu rassembler par-ci, par-là, pour en faire quelque chose le plus proche des faits qui se sont passés. Et c'est le même effort qu'il va faire dans le livre des Actes à propos du démarrage de l'Église. Et puis, on a Jean. Alors lui, Jean, lui, il prend de la hauteur, c'est le théologien. Il ne parle même pas de la crèche, il ne parle même pas de Marie, il ne parle pas de Joseph. Et puis il utilise un langage un peu spirituel, théologique, il parle de parole, il parle de lumière, il parle de vie. Et des choses un peu plus cérébrales. Chers amis, Dieu a voulu quatre récits de la naissance. Non pas pour que nous, en tant que grands apologètes, nous soyons là pour essayer de tout harmoniser en disant « Voyez, vous qui critiquez la Bible, en fait, elle dit exactement la même chose dans tous les quatre. » Non, dans les quatre évangiles, elle dit des choses différentes. Et si nous voulons vraiment avoir une bonne compréhension de ce qu'est la naissance de Jésus-Christ, il nous faut lire les quatre évangiles et lire le silence de l'évangile de Marc pour comprendre. Dieu nous arrête en disant... C'est pas simplement un bébé dans une mangeoire, c'est pas simplement une étoile, c'est pas simplement des beaux chants, c'est pas simplement des mages avec des cadeaux, c'est pas simplement un Dieu qui prend un corps d'homme. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et si vous lisez ces textes, vous allez trouver un certain nombre de choses qui sont beaucoup plus profondes que vous ne le pensez. Alors moi, j'en ai relevé pour moi-même. Et je ne dis pas que c'est tout ce qui est là-dedans, mais j'aimerais vous en faire part ce matin. Qu'est-ce qui est caché dans ces textes, ou qu'est-ce qu'il faut trouver et lire, sinon au deuxième degré, mais en faisant une pause un petit peu, pas en le lisant comme moi je l'ai fait naturellement comme ça. Alors la naissance de Jésus-Christ, la première chose que moi, lorsque je lis ce texte, et que le texte de Luc, c'est qu'en fait, la naissance de Jésus-Christ provoque des émotions. Et dans ce texte que nous avons lu, il y a trois émotions qui semblent transparaître dans le cœur des hommes. La première est la crainte. La deuxième est la joie. Et la troisième émotion est l'étonnement ou l'émerveillement. On a cette crainte qui arrive immédiatement lorsque les anges apparaissent. Et ce n'est pas parce que la lumière des anges était 150 000 watts, etc. et tout, et que c'était éblouissant, mais c'est tout simplement que la rencontre entre Dieu et l'homme est naturellement pour l'homme, qui se sent inférieur, qui se sent plus petit, qui se sent coupable, une expérience qui génère la crainte, naturellement. Et je crois qu'aujourd'hui, même nous, quelquefois nos sentiments vis-à-vis de Dieu, c'est un mélange de confiance que nous avons en Dieu, mais en même temps d'une crainte. Alors on essaye que ce soit une crainte qui soit sainte, qui soit bonne et tout ça, mais c'est vrai qu'il y a des moments où nous avons des craintes en nous-mêmes, et lorsque Dieu apparaît, il les révèle. Et notre première réaction est celle d'une crainte. Mais ce que l'ange dit au berger, c'est « vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. » Et ça, l'incarnation de Jésus-Christ, autant elle a ouvert la voie avec tout ce qu'il est en tant que Seigneur, et il sera juge, etc. et tout, et il y a toute cette composante naturellement de la vérité divine. Mais la naissance de Jésus-Christ dans ce premier élan, c'est « Je viens à vous, n'ayez pas peur. » Tout ce que vous avez pu imaginer, penser, tout ce que votre cœur a naturellement généré en vous de peur, de crainte, mettez-les de côté. Parce que je ne suis pas venu en antagoniste. Je ne suis pas venu en ennemi. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Et ça mériterait peut-être que vous preniez du temps pour vous-même et de réfléchir un petit peu à ce qui vous tracasse et vous travaille et qui vous fait peur. Surtout par rapport à Dieu. Et de vous dire, est-ce que la naissance de Jésus-Christ, est-ce que Jésus-Christ dans votre vie est quelque chose qui apaise ces peurs? Est-ce que votre confiance en Dieu est plus grande que les craintes que vous avez? Est-ce que la confiance que vous placez dans sa parole et ses promesses est plus grande que ce que vous pouvez voir autour de vous dans les circonstances que vous vivez? La deuxième émotion qui est provoquée ici, c'est la joie. Et là encore, je ne suis pas en train de parler d'une joie exubérante où les bergers se sont mis à danser et puis à sauter dans tous les sens, etc. Une espèce d'exubérance complètement débridée, ou une sorte de transe qui serait paranormale. Mais au contraire, c'est une joie qui rentre dans leur cœur et qui va au plus profond d'eux-mêmes. Et la joie est un thème extrêmement riche dans l'Écriture. Bien sûr, il y a tous les textes de l'apôtre Paul sur la joie que nous devrions avoir, mais elle plonge ses racines dans l'Ancien Testament, où la joie est provoquée par la parole de Dieu que nous entendons, où la joie est une récompense que le Seigneur donne pour la foi que ses enfants placent en lui. La joie est une force. La joie est une force qui fait tenir face aux circonstances. Mais surtout, la joie est cette réaction naturel que les hommes devraient avoir lorsque Dieu intervient dans l'histoire ou dans notre propre vie. Et là, il y a de nombreux textes dans l'Ancien Testament où la joie provient de cette intervention de Dieu qui a délivré son peuple. Cette intervention de Dieu qui arrivera un jour et qui les délivrera à nouveau et qui réconciliera toutes choses avec lui. Ça, c'est la deuxième des émotions. Quand est-ce la dernière fois que vous avez ressenti de la joie, non pas à la belle musique, non pas à des circonstances, mais la joie à tout simplement appartenir au Seigneur? Est-ce que le Seigneur s'est révélé à vous? Là aussi, est-ce que c'est quelque chose qui vous caractérise, qui caractérise votre foi? La troisième émotion, c'est cet émerveillement. Cet émerveillement qui semblait caractériser toutes les personnes qui avaient écouté les anges, qui avaient écouté, pardon, les bergers, qui rapportaient ce qu'eux avaient entendu des anges et ce qui s'était passé. Là aussi, quelquefois en tant que chrétien, on a l'impression qu'on doit avoir réponse à tout ou avoir déjà tout vu. Et de pouvoir tout expliquer. Parce qu'on est là, semble-t-il, dans une sorte de combat pour la vérité divine, où on se dit, il faut qu'il y ait une réponse. Et je la connais, cette réponse. Et on essaye d'expliquer plein de choses. Mais quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez été étonné par quelque chose que la Bible vous a dit en la lisant, ou que vous avez entendu d'un prédicateur, et qui semble être issu de l'Écriture, mais c'est quelque chose qui ne vous était jamais monté à la tête? Est-ce qu'il vous arrive 10 ans, 15 ans, 30 ans après votre conversion et après des heures, si pas des semaines ou des mois de lecture de l'Écriture, qu'il y a encore des choses dans la Bible qui tout d'un coup, pouf, et qui vous étonnent, qui vous émerveillent, des choses nouvelles? Alors vous me direz, oh, les choses nouvelles, il faut faire attention. Hein. Choses nouvelles... Je veux dire, le Seigneur, il a déjà dit les choses depuis très longtemps, on a certainement déjà fait le tour, donc on devrait tout savoir à peu près, à quelque chose près. Et pourtant, ce n'est pas simplement ce que dit l'Écriture, c'est aussi la façon dont vous le vivez. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont encore étonné dernièrement par rapport à l'Écriture, par rapport à Dieu, par rapport à votre foi? Une dimension supplémentaire que vous n'aviez pas compris jusqu'à présent ou cru que la parole enseignait. Et là aussi, lorsque la naissance du Christ arrive, c'est que c'est un événement qui est tellement riche, qui a tellement de dimensions, tellement de profondeur, que est-ce que nous sommes ouverts à laisser cet événement nous surprendre et nous émerveiller, même après des années de marche avec le Seigneur dans la foi? Ainsi donc, chers amis, est-ce que nos émotions, ce Noël, ont été affectées? Est-ce que nos émotions sont affectées par notre foi en Jésus-Christ? Et là, encore une fois, j'aimerais simplement que vous regardiez un petit peu ces émotions qui sont données ici. Ce sont des émotions de joie, qui sont des émotions profondes. Ce sont des émotions de crainte qui sont apaisées. Et d'émerveillement. Donc encore une fois, l'incarnation n'est pas simplement quelque chose que nous pouvons expliquer, rationaliser, c'est quelque chose aussi qui tout d'un coup devrait aussi toucher notre perception des choses par nos émotions. La deuxième chose, naturellement, et ça vous le savez certainement, mais sauf que la venue de Jésus-Christ, c'est l'accomplissement de promesses. Et pour moi, ce qui est important ici dans l'accomplissement des promesses, ce n'est pas simplement de pouvoir dire à tous les gens qui critiquent en disant « Mais vous voyez, c'est vrai, bon, hein, ça a été annoncé, et puis c'est arrivé, terminé. Il n'y a plus de discussion possible. » Ça, c'est une discussion que je mets de côté. Parce que quelquefois, elle est plus compliquée qu'on ne le pense. Mais ici, ce qu'il y a lorsqu'on dit que l'incarnation est l'accomplissement de promesses, c'est que c'est l'accomplissement de ce qu'attendaient les hommes. De ce qu'ils avaient au fond d'eux-mêmes. Dieu a planté en eux des attentes, des aspirations qui étaient liées à sa parole, et Dieu s'était engagé, et un jour, ses promesses se sont réalisées. Et ici, moi, ce que j'aime voir dans la naissance de Jésus aussi, c'est que la naissance de Jésus et la venue de Jésus dans le monde est une façon de répondre à nos aspirations les plus profondes que nous ayons. Et on pourrait ensemble discuter de ce qu'il y a au fin fond de nos cœurs, ce à quoi nous aspirons jour après jour, pour nous-mêmes ou pour d'autres, ou pour le monde dans lequel nous vivons. Et il faut savoir, c'est que là, dans l'incarnation de Jésus-Christ, se réalisent ses aspirations. Chers amis, lorsque vous soupirez, chers amis, lorsque vous dites « si seulement », en Dieu, ses aspirations trouvent leur satisfaction. Parce que Dieu est un Dieu qui s'est engagé dans sa parole. Dieu est un Dieu qui a manifesté sa bonté de façon récurrente. C'est lui qui a promis de bénir sur 1000 générations, mais de juger seulement sur 3 ou 4. C'est un Dieu qui a décidé de déverser sa grâce de façon surabondante là où notre péché a abondé. C'est un Dieu qui s'est engagé depuis tellement de temps à notre égard que lorsque Christ est arrivé, tout ce que nous pouvons attendre, vouloir, désirer au fin fond de notre cœur se trouve dans la richesse de Jésus-Christ. Et c'est là où l'apôtre Paul lui utilisera cette expression que nous avons été comblés de toute richesse en Jésus-Christ, qui est bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et ici, ces promesses, en fait, pour les bergers, sont récapitulées dans les 3 mots qui sont utilisés, Sauveur, Messie et Seigneur, qui tous les 3 renvoient des titres de l'Ancien Testament et qui renvoient à cette attente du peuple et qui trouve sa réalisation certainement à un moment de l'histoire d'Israël où personne ne l'attendait. D'accord ? Les Romains, ils étaient juste là. Vraiment, ce n'étaient pas les circonstances tout à fait les plus favorables pour que le Messie apparaisse. Et pourtant là, au plus noir, au plus profond de l'histoire d'Israël, là où le peuple était piétiné, là où il était insignifiant au point où il apparaît très peu dans les livres d'histoire de l'Empire romain et des historiens, Dieu s'incarne. Et Dieu lui dit, les promesses que je t'ai faites, maintenant, elles se réalisent. La 3e dimension que moi je trouve dans ce texte aussi, et j'emprunte un petit peu à Matthieu, c'est que l'incarnation crée une proximité entre Dieu et nous. On imagine encore Dieu là-haut, au-dessus du Mont Blanc, bien grand, au-delà de toutes ces images qu'on a vues dimanche dernier, c'était dimanche dernier que Anne-Marie nous a projeté les images sur les galaxies, etc. Un Dieu qui enveloppe tout ça, qui est beaucoup plus grand et tout ça. C'est tout vrai, mais ces textes, ils nous amènent Dieu jusque dans notre cour. Juste là, assis avec nous. Et le nombre de fois où dans ce texte l'ange il va dire « vous, je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour vous ?» Un Dieu vous est, un sauveur vous est donné. Dans l'incarnation, il y a la volonté de Dieu de venir au plus proche de qui nous sommes et de chacun d'entre nous. Au point où le titre qui lui sera donné est repris par l'évangile de Matthieu, c'est « Dieu avec nous ». Alors je ne suis pas en train de dire que les choses sont en train de se mélanger, qu'il y a une sorte d'immanence entre Dieu et l'être humain et tout, mais la volonté de Dieu ici est de venir au plus proche de chacun d'entre nous. Et tout ça sera développé dans le ministère de Jésus et la façon dont il traitera ses disciples. Vous savez, cette progression qu'il y a, qu'on voit surtout dans l'évangile de Jean, où les disciples sont d'abord des serviteurs, ensuite ils deviennent des amis, ensuite ils deviennent des frères. Pour ensuite, c'est des expressions qui sont utilisées par l'apôtre Paul après, où nous sommes co-héritiers de Jésus. Vous imaginez que Dieu le Fils est héritier et nous sommes co-héritiers avec lui de la même chose. À Noël, Dieu a voulu venir au plus près de chacun d'entre nous. pas de l'Église, pas de l'humanité avec un H majuscule, pas des hommes dans le sens collectif du terme. Il est venu à ses bergers, puis il a dit, c'est Dieu avec vous. Chers amis, combien d'entre nous vivons encore peut-être avec ce sentiment un petit peu de distance? Et Dieu sait très bien toutes les raisons qu'il y aurait pour créer de la distance entre lui et nous. Il y a tout notre péché, il y a tout notre... Voilà, toutes ces choses que nous savons très bien. Et Dieu, lui, pourrait très bien dire, tu sais, t'es pas assez pur pour que moi je me rapproche de toi. T'es pas assez bon. Moi, je suis saint, je suis archi-saint, trois fois saint. Toi, t'es fini, t'es que de la poussière et tu vas mourir. Et puis voilà, quoi. Il n'y a pas vraiment de raison. Mais c'est tout le contraire qui se passe. C'est tout le contraire. C'est ici Dieu qui devient un homme comme nous, qui prend la même condition que nous, et qui est en proximité et qui est à côté de nous. Tous les jours de notre vie, il nous est dit. Même lorsque nous ne le voyons pas comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Le Seigneur est là à côté de nous pour arriver au point où nous pouvons lui parler en lui disant « Abba, Père ». Avec la même liberté que le Fils s'adresse à son Père dans la Sainte Trinité. Nous avons cette même liberté parce que nous avons cette même proximité. Et ici, ce n'est pas quelque chose que les anges ou les hommes s'arrogent en disant « Je suis tellement beau, je me suis élevé au point où je suis un quasi-dieu ». Non, c'est un Dieu qui, lui, déchire le ciel, nous est-il dit, et descend, et vient, et marche sur la terre, à côté de nous, dans nos circonstances. Et il est Dieu avec nous pour l'éternité. La quatrième dimension que je vois, moi, c'est que la rencontre entre Dieu et les hommes, ou l'incarnation, est surtout marquée par l'humilité et, je dirais même, le dépouillement. Ici, dans ce texte, l'ange s'adresse à des bergers. Et tout le monde s'accorde pour dire, bon, ben, les bergers, ce n'est pas nécessairement les gens qui étaient les mieux placés à l'époque pour essayer de comprendre d'où tout cela venait, et quelles étaient les implications de tout ça. D'accord ? Il y avait quand même des gens un peu plus cultivés. Et pourtant, ici, Dieu, il décide d'aller voir des anges et de leur confier son message. Et comme les apôtres, plus tard, ne seront pas nécessairement des gens éduqués, ça sera des personnes à qui Dieu confiera son message à cause de leur cœur et leur attitude et leur foi, pour que eux soient les porte-paroles. Et ici, les anges confient à de simples bergers les quelques paroles qu'ils ont prononcées. Et de même, cela renvoie à le dépouillement de Jésus, lui, lorsque lui était dans la mangeoire, un simple bébé, inoffensif mais très vulnérable. Il y a quelque chose qui est véridique, me semble-t-il, et qui est durable dans notre relation avec le Seigneur, c'est que par-dessus tout, c'est l'humilité et le dépouillement qui devraient caractériser notre foi. Parce que tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous le donne. Tout ce que nous sommes, c'est Dieu qui l'a opéré en nous. Et ainsi, pour arriver peut-être à ce qui est le plus authentique, le plus vrai, c'est dans un sens d'avoir un cœur qui sait s'humilier, un cœur qui sait se dépouiller et qui se présente devant Dieu. Et c'est la même chose que Jésus a fait dans sa propre relation avec son Père. Il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait pour devenir un homme. Et tout le long de sa vie, il s'est dépouillé et il s'est humilié pour continuellement rechercher son Père, être en sa présence et faire sa volonté. Alors, chers amis, pensons peut-être à quelquefois, lorsque nous faisons les choses de façon grandiose, où nous avons l'impression de nous élever dans la foi et dans la connaissance et dans la progression de notre vie chrétienne, Et regardons ces choses peut-être comme des grâces que le Seigneur nous fait, mais elles ne sont en rien des conditions que nous pouvons mettre devant le Seigneur pour nous présenter devant lui comme étant des gens mieux. Au contraire, ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est de dire « Défais-toi de ces choses-là pour venir de la façon la plus authentique vers moi. » Alors je ne voudrais pas encore une fois prêcher la constante humiliation ou l'abaissement des uns et des autres constamment dans notre vie d'Église. Mais sachons avant tout que nous sommes appelés à être simples, humbles, et aussi à nous dépouiller d'un certain nombre de choses qui peuvent être en travers de notre relation avec le Seigneur. Sachant aussi que c'est ce dépouillement qui précède la gloire que le Seigneur nous donnera, parce que nous sommes appelés à la gloire de façon finale. Donc encore une fois, ce n'est pas un mouvement simplement d'abaissement et de reniement de soi qui sera de façon éternelle, mais nous nous renions nous-mêmes dans notre péché pour être glorifiés par le Seigneur dans sa gloire véritable. Et puis le dernier point, c'est que la venue de Jésus-Christ et son incarnation est une bénédiction. Alors on aura certainement le temps dans les semaines qui viennent de parler de bénédiction aussi, avec les anciens, on est en train de réfléchir un petit peu à ça. Mais ici nous avons des paroles qui sont prononcées en faveur des hommes. Et la bénédiction dans la Bible, c'est prononcer ces paroles en faveur des hommes en faisant appel à ce que le Seigneur veut faire et peut faire à l'endroit des hommes. Donc j'invoque le Seigneur, ses promesses, ses richesses sur quelqu'un d'autre. Et ici, reprenez cette parole des anges qui dit « Gloire à Dieu dans les lieux célestes », mais qui continue après avec une double bénédiction, « Paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes ». Ils ont une seule phrase. Un tiers de cette phrase est consacré à Dieu dans une louange qui s'élève vraiment, il cherche à l'élever le plus haut possible. Et dans la même foulée, ils invoquent la paix du Seigneur sur la terre et la bienveillance du Seigneur sur les hommes. Alors, quelle autorité est-ce qu'ils avaient de le faire ou pas de le faire? Je suppose que le Seigneur leur a donné ces paroles à prononcer sur les hommes. Mais si le Seigneur a voulu que ce soit compulsé dans son évangile, c'est qu'il entend bien que nous entendions cette bénédiction et que quelque part cette association entre la louange et la gloire du Seigneur et la paix pour les hommes et la bienveillance du Seigneur pour les hommes vont de pair. Il n'y a pas antinomie ou opposition entre la gloire de Dieu et le bien des hommes. Ici, cela va tout ensemble. Dans l'incarnation de Jésus-Christ, il y a le méga plus de tout ce que nous avons pour le louer de ce qu'il a pu faire en notre faveur et qui démontre sa grandeur et sa bonté au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Mais en même temps, il y a tout ce que Dieu a voulu y mettre dedans et la raison pour laquelle il a voulu le faire, c'est qu'il y ait paix sur la terre et que les hommes comprennent que c'est la manifestation de sa bienveillance et de sa bonté envers les hommes. Les anges bénissent les hommes et la terre au moment où ils chantent ça. Ils rappellent tout ce que Dieu a voulu depuis tellement de temps et la raison pour laquelle il le fait, c'est de ramener cette paix sur la terre et que les hommes comprennent sa bienveillance. Et je ne vais pas m'étendre pour rentrer dans les détails de ces trois parties parce que ça nous prendrait beaucoup trop de temps maintenant. Mais cette paix qui est pas simplement l'arrêt d'hostilité, mais qui est ce bien-être, cette richesse, telle que l'Écriture nous l'enseigne. Cette bienveillance qui renvoie à certainement la caractéristique, ou une des caractéristiques principales de Dieu, qui est sa bonté et sa miséricorde. Et ici, chers amis, les bergers n'ont pas simplement assisté à un concert, ils ont été l'objet d'une bénédiction en provenance des anges, qui invoquaient ce que Dieu voulait transmettre aux hommes. Et ici, dans cette petite phrase, à côté de la louange et de la gloire du Seigneur, se manifeste aussi le cœur de Dieu qui est de nous ramener à la paix et de comprendre qu'il est bon et bienveillant envers nous. Chers amis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais simplement avoir fait le tour un tout petit peu de ces quelques détails que se trouvent dans l'Écriture, Noël prend une dimension quand même un peu plus grande que le petit bébé dans sa mangeoire. Et pour méditer à tout ça, ça va me prendre un peu plus que le 25 décembre, après le repas de midi. Chers amis, ce que Dieu a fait à Noël, vous n'êtes pas encore au bout de l'avoir compris, et moi non plus. Alors je vous invite à méditer ces quelques points pour vous-même, parce que je pense que tous ont des implications dans la façon dont nous vivons notre foi. Mais si ça vous pose des questions, ne repartez pas en vous disant « Oh, ça y est, j'ai pas compris » et que cela vous enfonce encore. Au contraire, laissez-vous submerger par le fait que c'est un Dieu qui vient vers vous, non pas pour vous enfoncer, mais pour vous relever. Qui vient vers vous, non pas pour vous dire « Tu vois, t'as encore rien compris », mais au contraire qui dit « Je comprends que tu ne comprennes pas, mais faisons du chemin ensemble. » Un Dieu qui dit « Moi, je suis grand, digne de ta plus grande louange, mais pas pour t'écraser, non pas pour te faire tout petit, mais pour que tu comprennes que certainement une des plus grandes raisons de me louer et tout ça, c'est de ce que j'ai fait pour toi. Et c'est certainement l'œuvre la plus grande et la plus belle que j'ai jamais faite. » Chers amis, profitez encore des quelques jours qui nous restent là au calme avant de reprendre le boulot ou le 1er janvier pour laisser cet esprit de Noël rentrer en nous et nous imprégner. Je vous invite à quelques instants de silence où vous pouvez vous-même adresser votre prière au Seigneur, soit que ces paroles deviennent réalité pour vous, soit qu'il vous aide à comprendre encore cette dimension supplémentaire de Noël, mais que vous puissiez repartir d'ici plus riche encore de ce que Dieu a fait pour vous à Noël. Prenons quelques instants, puis ensuite je terminerai. Seigneur mon Dieu, ce qui me frappe le plus, c'est que ta parole m'émerveille encore. Et pour cela, je voudrais te dire un grand merci. Merci Seigneur, parce qu'elle est bien plus riche que ce que j'ai pu croire. Merci Seigneur, parce que tu as parlé à d'autres hommes et nous pouvons nous enseigner les uns les autres, entre frères et sœurs. Merci Seigneur aussi, parce que les circonstances de ma vie, quelquefois, m'aident à chercher et à trouver des richesses qui sont cachées dans ta parole. Et Seigneur, je voudrais te remercier pour ce texte de Luc. Ce que tu as mis sur son cœur pour nous rapporter et qui jette encore plus de lumière sur ce que tu as fait ce jour où tu es né. Et pour cela, Seigneur, je voudrais te dire ma plus grande reconnaissance. Seigneur, ta parole est vivante et je te demande maintenant qu'elle puisse aussi enrichir et parler au cœur de chacun d'entre nous. Et que notre foi puisse être affermie, que notre espérance puisse être renforcée, que notre foi, Seigneur, puisse être approfondie. Seigneur, tu es grand, nous te louons. Et nous te remercions encore pour ce moment de louange que nous avons eu ce matin, qui nous a permis d'exprimer, Seigneur, tous ensemble, unis par ton esprit, mais avec nos voix, ta grandeur et ta bonté envers nous. Merci pour ce culte, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Est-ce qu'on pourrait... On passe maintenant, on arrive à la fin de notre culte et je voudrais faire quelques annonces sur la semaine qui vient ou les deux semaines qui viennent. Déjà pour vous dire que donc mercredi, nous organiserons un réveillon. Les détails logistiques ne sont pas encore tout à fait finalisés parce qu'en fait, ça va dépendre du nombre de personnes. Donc, il y a un tableau au fond sur lequel on vous demanderait si vous voulez encore participer au réveillon de mercredi soir, de mettre votre nom et le nombre de personnes. Et ensuite, nous recontacterons toutes ces personnes pour dire si on le fera dans une famille ou si on le fera plutôt ici. Donc, n'hésitez pas à la fin, c'est vraiment le dernier moment pour vous décider. Comme ça, on saura du point de vue logistique comment organiser ça. Dimanche prochain, 4 janvier, 9h30, café thé. Je regarde vers mes collègues, c'est bon ? Le premier dimanche de janvier ? Oui ? Oui, d'accord. Sinon, on trouvera une autre solution. Et notre culte à 10h30. Mardi 6, vous pouvez déjà prendre note de ça aussi. Nous aurons notre dernière étude biblique sur le livre « Connaître Dieu » de James Packer. Ensuite, nous passerons à une autre série. Mais mardi 6, donc, rejoignez-nous à 20h30 pour ce dernier chapitre. On mettra à disposition, on marquera sur le site quel est les chapitres à lire pour cette étude. J'annonce déjà mercredi 14 janvier. C'est la semaine de prière de l'Alliance évangélique ou enseignement Alliance évangélique. Je ne sais plus comment ils l'appellent maintenant. Mais enfin, là où on se rassemble avec les autres églises pour prier ensemble. Donc, ça sera mercredi 14. Ça sera mercredi 14 et le lieu sera précisé. C'est mercredi 14. Donc là, je ne sais pas, l'ordinateur, il nous a encore fait un truc, quoi. Bon, enfin, ce sera le mercredi. Hein, mercredi. Mercredi. Et puis, vous encouragez encore à continuer à prier pour nos frères et sœurs dans les pays là qui souffrent en ce moment. Le pays pour lequel nous voulons prier cette semaine est le Pakistan. Nous avons eu pas mal de nouvelles par les uns et les autres dans notre église, en particulier Daniela, à propos de ce qui se passe au Pakistan. C'est un pays, en fait, qui a, je ne sais pas s'il faut dire progressé ou dégénéré dans son rang dans l'index des pays persécuteurs, mais c'est un pays, en fait, qui est passé de la 14e position dans l'index de portes ouvertes à la 8e position en une année. Donc, c'est là où les choses se sont durcies pour les chrétiens. Et en fait, en y jetant un petit coup d'œil, c'est que les chrétiens pakistanais sont pris en étau, en fait, entre deux choses. D'une part, les organisations islamiques comme les talibans, qui s'en prennent violemment aux chrétiens, entre autres. Et puis d'autre part, une nation qui se laisse influencer et qui glisse vers une islamisation de plus en plus forte et qui fait qu'il y a un certain nombre de choses qui font que ce n'est pas un milieu très favorable aux chrétiens pour y vivre, trouver du travail, se sentir libre, pouvoir se rassembler avec d'autres chrétiens. Donc là, je vous invite vraiment cette semaine à porter votre intercession en faveur de ce pays qu'est le Pakistan. Et là encore, je rappelle que sur le site, en haut à droite, vous avez le nom du pays, le drapeau, mais aussi un lien qui vous emmène sur le site de Portes Ouvertes où vous avez beaucoup plus d'informations sur la situation des chrétiens au Pakistan. Sinon, les nouvelles de personnes, apparemment, et là je me tourne peut-être vers Brian, les nouvelles de Charlie et de Ghislaine sont apparemment meilleures que ce qu'elles étaient dimanche dernier. Donc il y a de la progression. Donc voilà, bon, Charlie va beaucoup mieux, son dos apparemment, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et Ghislaine, tu as des nouvelles ? Et à cet effet, j'aimerais dire que vous trouverez son numéro de téléphone sur le site de l'église. Il y a les dernières nouvelles de Ghislaine et son numéro de téléphone où vous pouvez la joindre. Donc n'hésitez pas à le faire. Voilà pour les nouvelles de personne. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses qui m'ont échappé ou... Très bien, ben, je vous invite à vous lever. Et je vous invite à entendre cette parole du Seigneur. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Amen. Bonne semaine. À dimanche prochain. Ou à mercredi soir.